Merci d'écouter RFI, il est 1h à Paris.
Mathis Limano.
Et à la une, l'escalade commerciale entre Washington et Ottawa. Le Canada réplique après l'entrée en vigueur de droits de douane. Justin Trudeau a décrété des taxes équivalentes, 25%. Mais dans un instant, on s'intéresse à l'or noir canadien, le pétrole importé aux États-Unis, relativement épargné par les taxes. On vous explique pourquoi. Alors que l'Union européenne tente de répondre après la suspension de l'aide militaire américaine à l'Ukraine, les conséquences se font déjà ressentir en Europe. On est en Pologne dans ce journal. Et puis alerte au cyclone en Australie. Alfred est attendu sur la côte est dans les prochains jours. Les évacuations sont en cours. Donald Trump a donc mis ses menaces à exécution. Les produits chinois sont depuis ce mardi surtaxés à leur entrée aux États-Unis à hauteur de 20%. Pour les produits mexicains et canadiens, c'est même 25% de taxes, avec quelques exceptions. Cependant, seulement 10% sur le pétrole canadien. Alors, pourquoi ce statut si particulier? Eh bien, parce que les États-Unis importent beaucoup de pétrole canadien, comme l'explique Francis Perrin, directeur de recherche à l'IRIS.
C'est paradoxal parce que les États-Unis sont le premier producteur mondial de pétrole. Donc, a priori, on peut se dire pourquoi est-ce qu'un pays qui est le plus grand producteur mondial de pétrole aurait besoin d'importer beaucoup de pétrole de son grand voisin du Nord, qui est le Canada. Il y a deux raisons pour expliquer ce paradoxe. La première, c'est la proximité. Dans certains cas, quand on est aux États-Unis, vaste territoire, environ 9 millions de kilomètres carrés, il peut être plus intéressant économiquement de faire venir du pétrole du Canada que de faire venir de l'autre bout des États-Unis. Deuxième raison, une raison de qualité des pétroles concernés. Parce que le pétrole produit aux États-Unis de façon majoritaire ne correspond pas forcément à la configuration technique de plusieurs raffineries américaines. Et quand on veut importer du pétrole plus lourd que le pétrole produit aux États-Unis, qui lui est très léger, on pense évidemment à en importer d'abord de son voisinage immédiat, et là le Canada est absolument incontournable.
Francis Perrin avec Nicolas Feldman. Le gouvernement canadien qui accuse Washington avec ses taxes de vouloir annexer le Canada en affaiblissant son économie. En réaction, Ottawa a décrété des taxes miroirs sur les produits américains. Mais alors que Donald Trump menace d'encore surenchérir, le ministre américain du Commerce annonce qu'un compromis pourrait être trouvé, et ce dans les prochains jours, avec le Canada et le Mexique. Mexico également visé par la guerre commerciale que mène le président américain. Donald Trump qui va s'exprimer dans les prochaines heures devant le Congrès américain, sorte de premier bilan de son retour à la Maison-Blanche. Le clash avec Volodymyr Zelensky, puis le gel de l'aide militaire à Kiev devrait figurer en haut de la pile. Et alors que Donald Trump annonçait hier les interruptions de livraison américaine à l'Ukraine, la Pologne en constate déjà les effets. RFI Varsovie, Adrien Sarlat.
Les véhicules affrétés pour réceptionner l'aide américaine à l'aérodrome de Rzeszów sont restés vides ce matin. Depuis 3 ans, ce petit aéroport permettait de faire transiter l'aide humanitaire et militaire à l'Ukraine voisine via le hub logistique de Yashchenka. Le Premier ministre Donald Tusk a appelé tous ses ministères à collaborer face à cette situation exceptionnelle.
Aujourd'hui, nous n'avons aucune raison de penser que la suspension de l'aide américaine à l'Ukraine n'est que des paroles en l'air. Des rapports nous parviennent de la frontière et de notre hub à Yashchenka. Et évidemment, cela met l'Europe, l'Ukraine et la Pologne dans une situation plus difficile.
Jusqu'ici, la défense polonaise reposait en partie sur le parapluie américain, mais les dernières déclarations de Donald Trump donnent tout leur sens aux 4% du PIB que le pays investit depuis 3 ans pour tendre vers l'indépendance stratégique et militaire.
Il faut qu'on accélère radicalement la cadence. Dans une semaine, nous allons peut-être adopter un projet de loi qui nous facilitera encore davantage les investissements dans la défense et l'industrie d'armement.
Depuis l'invasion de l'Ukraine, la Pologne et les Pays-Baltes avaient fait des questions de défense européenne leur priorité. Aujourd'hui, Varsovie assure ne plus avoir à convaincre ses partenaires européens de s'aligner face à l'urgence de la situation. Adrien Sarlat, Varsovie, RFI.
Une situation que Volodymyr Zelensky veut vite régler. Il l'a assuré ce mardi. Le président ukrainien s'est dit prêt à signer à tout moment l'accord cadre sur les minerais ukrainiens. Et pour montrer sa volonté de faire revenir la paix, il a proposé une trêve avec Moscou dans les airs et dans les mers. Première étape d'une paix durable, d'après Kiev. Et alors que l'Union européenne tente de prendre le relais des États-Unis avec un plan à 800 milliards d'euros annoncé par la présidente de la Commission, en France, la défense européenne était aussi à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Interrogé sur la question par le président du groupe Ensemble, Gabriel Attal, François Bayrou a exprimé sa vision, le Premier ministre estimant que la France doit réunir tous les moyens pour compenser le gel de l'aide militaire américaine.
Quel est l'enjeu pour la France ? L'enjeu est très simple. Il s'agit de réunir tous les moyens possibles pour se substituer autant que possible à une aide internationale qui aurait été arrêtée. C'est un effort considérable que les Européens, en tout cas ceux parmi les Européens qui sont décidés à aider l'Ukraine, doivent réunir. Mais au-delà de cela, et en souhaitant que notre soutien permette à l'Ukraine de résister, au-delà de cela, il nous faut bâtir, nous, une défense européenne.
François Bayrou à l'Assemblée nationale à Paris, la capitale française, où est attendu ce mercredi Viktor Orban. Le président hongrois vient s'entretenir avec Emmanuel Macron à la veille d'un sommet européen consacré à l'Ukraine. Viktor Orban, à la fois proche de Vladimir Poutine et Donald Trump, plaide pour un arrêt des livraisons d'armes à l'Ukraine et l'ouverture des négociations avec la Russie, menaçant sinon de bloquer le sommet européen. Enfin, les Nations Unies soutiennent fermement le plan arabe pour reconstruire Gaza. Plan présenté ce mardi par l'Égypte et adopté par les dirigeants arabes. Ils étaient réunis en sommet extraordinaire au Caire, présenté comme une alternative au plan américain prévoyant l'expulsion des Gazaouis. Ce plan d'un montant de 53 milliards de dollars prévoit la reconstruction de la bande de Gaza en 5 ans et une administration de l'enclave par les Palestiniens. Le président palestinien Mahmoud Abbas a lui assuré que l'autorité palestinienne reprendra ses responsabilités à Gaza dès que possible. RFI 11h07 à Sydney. 4 millions d'Australiens se préparent à l'arrivée du cyclone Alfred. Il est attendu entre jeudi et vendredi sur la côte est du pays. Certains Australiens évacuent déjà alors qu'un tel phénomène météo ne s'était pas produit dans cette région depuis des décennies. Grégory Pless.
Si le cyclone Alfred ne devrait toucher les côtes australiennes que jeudi ou vendredi, des vents très puissants de plus de 100 km/h sont eux attendus d'ici 24 heures, tout comme de très fortes pluies. Plus de 20 000 foyers pourraient ainsi se retrouver inondés. C'est pourquoi les policiers font actuellement le tour des habitations les plus exposées pour prévenir la population. Et dans le cas de la ville de Brisbane, leur conseiller carrément de quitter leur foyer. Le Premier ministre Anthony Albanese s'y est justement rendu ce soir, tandis que le gouvernement fédéral a activé son plan de réponse aux catastrophes naturelles. Des hélicoptères de grande capacité ont ainsi été prépositionnés pour assister les services de secours. Au cours des 50 dernières années, la ville de Brisbane a déjà été inondée 3 fois. La plus grave inondation, en 2011, avait affecté plus de 200 000 personnes et coûté à l'économie australienne près de 20 milliards d'euros. Grégory Pless, Sydney, RFI.
Et puis on parle alpinisme pour refermer cette édition avec cette incroyable histoire dans la cordillère des Andes. 2 filles d'un alpiniste argentin décédé il y a 40 ans sur les pentes d'un volcan ont récupéré il y a quelques jours son sac à dos, jusqu'ici prisonnier des glaces, Olivier Pron.
Guillermo Vierro avait 44 ans lors de sa mort en 1985 sur les pentes glacées du volcan Tupungato, haut de plus de 6500 mètres à la frontière entre l'Argentine et le Chili. Très vite, son corps et celui de son accompagnateur avaient été retrouvés, mais pas leurs affaires. 39 ans plus tard, en 2024, une autre alpiniste, Gabriela Cavagliaro, repère dans le même secteur un sac à dos prisonnier des glaces dont elle parvient à extraire une caméra et un piolet. Certaine que ce sac est celui de Vierro, elle contacte ses 2 filles, Guadalupe et Azul, qui n'ont quasiment pas connu leur père. Le mois dernier, à la faveur de l'été austral, elles montent une expédition pour récupérer le fameux sac réapparu à plus de 6000 mètres. Elles y retrouvent une veste, un sac de couchage, des couteaux, mais surtout 2 bobines de film. Après visionnage, celle-ci prouve que les 2 hommes avaient bien gravi pour la première fois la face est du volcan la plus difficile, ce qui n'a plus jamais été fait depuis. Les effets personnels de leur père, elles vont les donner à un musée, en espérant un jour pouvoir en parler à leur mère. Dans notre famille, le mot montagne a toujours été interdit. Elle ne veut rien savoir de la découverte du sac. Elle a été brisée par le chagrin et le vide, dit Assoul. Pour nous, au contraire, c'est un signe qui dit de lui « Je suis toujours là, vous n'êtes pas seul ».
Le récit d'Olivier Pron pour refermer ce journal. À Paris, il est 1h10.